Rencontre avec. Le mot rencontre se définit curieusement par rencontrer quelqu'un ou quelque chose, de manière fortuite ou non, sur son chemin. Comme si le mot rencontre se définissait par rencontre.
J'ai rencontré Guillaume Poix avec mes élèves lundi 21 février 2022 dans le cadre du prix littéraire de la région Pays de la Loire. La quatrième de couverture présente ainsi son œuvre. Là d'où je viens, a disparu. Ça fait 2 ans que je ne l'ai pas revue. 723 jours pour être précise. Il y a un mois, j'ai reçu une lettre de lui en provenance des États-Unis. Il m'indiquait qu'il avait fui notre pays et qu'il travaillait dans une entreprise de bâtiment. Il allait bien, il écrirait de temps en temps. Il me souhaitait du calme maintenant qu'on ne se reverrait plus. J'ai brûlé la lettre. Et j'ai regardé mon fils aîné partir en fumée. Inspiré de faits réels, ce roman choral explore des rêves d'exil, accomplis ou à jamais manqués. D'un continent à l'autre, des familles dispersées affrontent la même incertitude. Que transmettons à ces enfants qu'aucune frontière ne peut effacer?
Pourquoi avoir incorporé plusieurs points de vue?
C'est une excellente question. Pourquoi? Par égard pour le lecteur. Parce que je pense que sur un... Moi, je n'ai pas de point de vue. Ça peut paraître un peu particulier de le dire, mais c'est pas tant... C'est-à-dire que bien sûr que j'ai un point de vue, mais pour autant, mon point de vue ne cesse de changer. Moi, je me sens très fragile. Je sens que mes opinions sont très fragiles. Je sens que je peux changer beaucoup. Je sens que d'un jour à l'autre, je vais être influencé et que donc ma vision du monde ne va pas cesser de se reconfigurer et que donc mon point de vue, il est indéterminable, il est indécidable et donc il n'a pas de valeur. C'est pas avec celui-là que je dois écrire. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est la confrontation des points de vue. Parce que ça, je me dis que ça, c'est le travail que l'écrivain peut faire. Je considère que mon travail, c'est de me mettre absolument dans la peau de Jérémy et dans la peau d'Engie. C'est vraiment de me dire, il faut que je sois capable de cette agilité empathique-là pour pouvoir essayer de raconter 2 expériences contradictoires de présence au monde. Et par le travail de montage, comme celui que vous avez fait là, où tout à coup vous montez des images les unes contre les autres ou les unes pour les autres, vous faites des chaînes de sens avec le montage, cette multiplicité des points de vue, pour moi, elle est essentielle pour donner au lecteur d'abord la possibilité de rencontrer un peuple et donc en cela d'avoir une expérience proche de ce que c'est que l'existence. On ne cesse de rencontrer des gens qui ont différents points de vue, qui nous déconcertent, avec lesquels on est en adhésion ou en opposition. Ça, je trouve que c'est une des choses les plus passionnantes de la vie, et moi, c'est ça que j'aime dans les livres, c'est quand je rencontre un peuple de gens, de points de vue, de sensations, d'émotions. Et aussi parce que je pense que c'est comme ça qu'on peut dialoguer avec le lecteur. C'est en le mettant lui-même dans un état où il est dans une instabilité permanente et il n'est pas conforté par une seule voix. Comme le sujet de la, disons des, je ne sais même pas si le mot migration est juste, mais en tout cas, qu'est-ce que c'est que de quitter sa maison pour soit parce qu'on est obligé, soit parce qu'on souhaite donner à ses enfants un avenir meilleur. Il me semblait que ce sujet-là appelait cette multiplicité de points de vue, dans la mesure où ce qui était intéressant, c'est précisément ça, c'est que c'est un sujet qu'on a du mal à appréhender parce qu'il y a tant de contradictions. Il y a tant de difficultés à l'appréhender, il y a tant de cas individuels que le réduire à une seule histoire ou une seule expérience, je trouvais que ce n'était pas juste par rapport à ce que je souhaitais raconter. Et je me disais, il faut que le lecteur, par ce saut constant dans l'altérité, fasse l'expérience d'une rencontre. C'est vraiment ça.
Avez-vous d'abord écrit chaque histoire, puis ensuite les avez-vous découpées par chapitre?
C'est un peu les deux, c'est-à-dire j'ai commencé par toute l'histoire salvadorienne qui a vraiment constitué le cœur du livre au départ. Ça se passait uniquement au Salvador et précisément il y avait déjà 3 personnes, il y avait Martha, Raphaël et je crois même qu'il y avait un 3e personnage qui parlait. Donc il y avait déjà un roman polyphonique, c'est-à-dire un roman composé de plusieurs voix, de points de vue contradictoires. Mais j'ai senti que le livre était comme trop réduit. je sentais que l'expérience salvadorienne, elle était fondamentale, elle était mon point d'entrée dans le sujet, elle était ce qui avait déclenché l'écriture en moi et ce qui m'avait permis de me saisir de ce sujet, parce que je me suis pas dit que j'allais écrire un roman sur la grande thématique de la migration, vraiment pas du tout. J'ai attrapé ce sujet à travers cette photographie, donc à travers l'infiniment petit d'une expérience intime de contemplation entre moi et cette photographie. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à essayer de m'intéresser à et à enquêter sur la vie de ce père, de sa fille, de sa femme. Comment ils en sont arrivés là, c'était quoi concrètement leur trajet. Donc j'ai fait une énorme enquête dans la presse internationale pour essayer de comprendre minute par minute, entre guillemets, leur trajet des 6 mois du moment où ils étaient partis de San Salvador jusqu'à arriver à la frontière avec le Texas. Et une fois que j'ai fait ça, je me suis initié aux problématiques de la migration, aux problématiques des demandes de visa, tout ce que ça comporte pour quelqu'un qui veut quitter son pays. Et cette initiation-là, qui était évidemment très contextualisée à l'Amérique, enfin l'Amérique, les rapports entre l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord, elle m'a passionné. J'ai commencé à y voir plus clair sur beaucoup de questions liées à cette thématique-là, et j'ai senti qu'en fait, c'était d'une part que je ne pouvais pas me dérober, c'est-à-dire que j'avais un peu l'impression de regarder très tout là-bas, mais de ne pas être capable de regarder ma société, celle que je connais un peu mieux, et je me suis dit qu'il fallait qu'il y ait un contrepoint à cette histoire du Salvador. Donc j'ai commencé à imaginer une histoire française, et puis après j'ai commencé à imaginer une histoire américaine, puis une histoire somalienne, et donc peu à peu le roman a, comme ça s'est peuplé de différents personnages. Et j'ai écrit, une fois que le fil salvadorien, après je l'ai découpé, et puis j'ai commencé après à injecter d'autres voix. Et donc ça s'est fait comme ça, ça n'a pas été... J'ai pas écrit toutes les voix, tout le fil français, puis après tout le fil somalien, puis après tout le fil américain. Une fois qu'il y avait le fil salvadorien, après j'ai tout écrit à la fois successivement, simultanément, et après je construisais peu à peu les choses. Mais une fois qu'il y a eu cette colonne-là, après j'ai injecté les autres fils.
Pourquoi utiliser un langage parfois très cru ?
Et pourquoi pas ? Qu'est-ce que vous pouvez préciser là ?
Par exemple, à certains moments du livre, juste par exemple dans l'extrait
ouais,
qu'on vient
ouais,
de voir, ouais. Il peut y avoir un langage qui peut choquer au premier abord.
Oui.
On ne s'attend peut-être pas à trouver ce vocabulaire-là dans ce genre de livre.
Oui.
Est-ce que c'est un choix ou c'est
Ce qui est passionnant dans votre question, c'est que c'est la question de l'horizon d'attente. C'est que vous, en tant que lecteur ou lectrice, vous avez un horizon d'attente sur la littérature. La littérature doit, d'une certaine manière, proposer un langage, si ce n'est soutenu, du moins... courant plus, enfin je sais pas comment dire, dans un registre de langue qui soit pas de gros mots, pas de tournure grammaticale incorrecte. Moi je viens du théâtre, moi j'écris aussi beaucoup pour le théâtre, et pour moi la question de l'oralité elle est fondamentale. Et donc là dans le roman ce sont des voix intérieures, c'est-à-dire ce sont des personnages qui ont une voix intérieure et une pensée, exactement, on est dans leur flux de pensée, on est dans leur voix intérieure et leur flux de pensée, et donc ils restituent quelque chose du rapport au monde qu'ils ont. Donc ils restituent quelque chose de leurs échanges, de leurs conversations. Ils s'expriment dans une voix qui n'est pas entendue, qui est leur voix intérieure. Donc je propose au lecteur d'entrer dans ce secret-là, de pousser la porte de l'intériorité du personnage et d'aller dans un rapport de sincérité. Et moi, je pense, avec une multitude de registres, je pense que chacun d'entre nous brasse une multitude de registres dans sa journée, en fonction des interlocuteurs, en fonction des moments, et puis par rapport à... Si vous pensez à votre voix intérieure, elle n'est pas nécessairement structurée, elle n'est pas nécessairement grammaticalement architecturée ou construite, elle peut être aussi informe, elle peut être aussi crue, elle peut être grossière, elle peut être ordurière même. Et je trouve que si on considère que la littérature, ça n'est que la rencontre avec une langue dite académique ou dite correcte, je pense qu'on passe à côté de ce que c'est que la littérature. La littérature, enfin moi en tout cas, la littérature qui m'a plu, qui m'a marqué, c'est une littérature où je découvre la singularité d'une langue et je me fiche un peu du rapport à la grammaire. C'est-à-dire que pour moi, une voix, un écrivain, invente sa grammaire, invente sa voix, utilise un rapport au langage qui est un rapport singulier. Moi, c'est ça que je cherche dans un livre. C'est quand je rencontre quelqu'un qui a un rapport singulier au langage. Pas quelqu'un qui duplique une langue dont il considère qu'elle est la langue qu'on doit parler. Ça, ça ne m'intéresse pas du tout. Pour moi, ce n'est pas là qu'est la fiction. Ce n'est pas là qu'est la rencontre avec ce que le langage peut avoir de puissant, de déstabilisant. Donc, la crudité, d'une part, elle est très présente dans le personnage de Pascal. Le personnage de Pascal, c'est un personnage qui est inspiré d'un de mes oncles. Excusez-moi. Et cet oncle, c'est comme ça qu'il parle. Il a un rapport, et puis alors il se trouve qu'en plus, il parle lyonnais. Enfin, il y a un patois lyonnais, donc il y a une espèce comme ça de verve. Et moi, j'ai grandi dans cet environnement de verve, comme ça. Et c'est quelque chose que j'aime, c'est quelque chose qui m'est cher et dont je voulais faire trace. Donc, je considérais que chacun des personnages aussi devait avoir sa voix propre pour que le lecteur, j'avais bien conscience qu'il y avait une multitude de personnages et que pour le lecteur, ça demandait aussi une agilité particulière. Il me semblait donc qu'il fallait identifier chacun des personnages avec un canal de voix précis, un vocabulaire précis, un rapport à la langue particulier. Et c'est pour ça que chez Pascal en particulier, il y a ce rapport à la crudité qui est aussi un rapport au comique pour moi, qui était un contrepoint important par rapport à quand même le cours tragique du roman qui mène son chemin de manière assez implacable. Donc, de la même manière que je cherche la variété des points de vue et la multiplicité des points de vue, j'essaie de chercher aussi la variété des registres et des tonalités pour que le lecteur ne s'ennuie pas ou pour que le lecteur n'ait pas l'impression que tout ça n'est qu'une seule, un seul canal de voix arbitrairement éparpillé. Ce qui m'intéresse, c'est trouver le corps de la voix de chacun des personnages.
Il y a une question que s'est posée un des personnages pendant tout le récit. Et est-ce que vous pouvez nous répondre de comment expliquez-vous qu'un enfant qui a été éduqué par des paroles ouvertes puisse devenir raciste ?
Je n'ai aucune réponse à ça. J'ai écrit le livre pour essayer de vous poser la question, parce que je n'ai aucune réponse. Je ne sais pas. Je n'ai aucune réponse à ça. Je pense que on peut sans doute invoquer beaucoup de raisons sociologiques, de raisons sociales, des parcours, des rencontres, des personnalités, des caractères, des expériences de vie qui vous construisent et qui vous fondent et qui font que tout à coup vous allez là plutôt que là. D'ailleurs, au départ j'avais appelé le personnage de Jérémy Guillaume à dessein et puis mes éditeurs n'ont pas souhaité qu'on garde ça, mais donc j'ai quand même fait un petit clin d'œil que vous avez entendu. Manière pour moi de dire, je suis allé dans le même lycée que lui, j'ai des parents proches de ce que je raconte. Pourquoi suis-je moi et ne suis-je pas Jérémy ? Pourquoi j'ai pas sociabilisé davantage avec des gens qui ont fini par intégrer Génération Identitaire ? Pourquoi je suis parti de chez moi ? Pourquoi ? Bon, ça c'est le mystère de la vie. Pourquoi on est comme ça ? Bon, ça je trouve ça passionnant et je trouve ça passionnant notamment dans la relation parent-enfant. Que font nos enfants, les choix qu'ils font malgré tout ce qu'on pense leur transmettre ? La liberté souveraine des enfants, c'est quand même de construire sa vie indépendamment des parents. Et donc ça, je trouve que c'est à la fois la plus grande beauté quand on a des enfants et en même temps la plus grande crainte, le plus grand mystère. Mais je n'ai aucune réponse. Et je pense que si on en avait, on pourrait sans doute résoudre certains problèmes. Mais je ne sais pas.
Et vous ? Comment réagiriez-vous si vous appreniez qu'un de vos proches faisait partie d'un groupe raciste ?
Oh ben, c'est le cas, donc comment je réagis ? Je sais pas. Je réagis j'essaie de trouver... C'est entre l'effarement, la perplexité, la résignation et la colère. C'est une espèce de... C'est un éventail, c'est-à-dire l'effarement de se dire on a pourtant tellement de choses en commun, comment se fait-il que notre vision du monde soit si opposée ? La perplexité parce que je me demande comment... Est-ce que cet engagement est sincère ou est-ce qu'il dit autre chose que lui-même ? C'est-à-dire est-ce que la conviction est sincère ou est-ce que cette conviction est instrumentalisée au profit d'autre chose ? La colère parce que je vois bien la violence que ça génère et je suis opposé à cette violence-là. Et la résignation, parce que je vois bien aussi que le dialogue, dans mon cas précis, ne change pas grand-chose, ne génère rien que ou de la frustration ou un accroissement de la distance. Et que je suis un petit peu comme Hélène à me dire comment je fais pour garder près de moi des gens que j'aime, mais qui ont des comportements ou des engagements qui me sont étrangers. Et puis j'essaie surtout de me défier de moi-même, c'est-à-dire de me dire je ne peux pas sans transiger sur ce que je considère être mon système éthique ou mon système de valeurs politiques. J'ai quand même le devoir, du fait que ce sont des proches, de m'interroger sur ce qui nous a éloignés comme ça et sur ce qui fait qu'ils trouvent dans cette appartenance-là un motif identitaire valable qui les tient debout et qui les construit, qui les nourrit, ça m'interroge beaucoup. Donc c'est plutôt de la, ouais, une espèce de faisceau d'émotions contradictoires qui ne cessent de se chasser les unes les autres. Mais c'est l'amour, ça. L'amour, c'est comme ça. Quand on aime quelqu'un, on est là-dedans, on est dans tout ça, quoi. L'autre est infiniment et radicalement étranger, et en même temps, on l'aime. Donc,
C'était la merveilleuse rencontre de mes élèves avec Guillaume Poix, auteur de « Là d'où je viens a disparu », dans le cadre du prix littéraire de la région.